Et j'ai le plaisir maintenant de présenter, d'abord de faire la connaissance et de présenter le professeur Akindes. Le professeur Akindes est sociologue. Il enseigne à l'université Alassane Ouattara, qui est ex-université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il est également coordonnateur de programme de la chaire UNESCO de bioéthique dans cette même université. Il a été professeur invité de plusieurs universités, et notamment l'université d'Oxford au Royaume-Uni et de l'université d'Uppsala en Suède. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs articles dans des revues qui portent sur les transitions démocratiques en Afrique, en travaillant plus particulièrement les formes de violence politique qui sont générées par les processus de démocratisation eux-mêmes et par les politiques publiques de lutte face à la pauvreté. Nous avons le plaisir de vous entendre.
Merci, professeur Monique Castillo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, d'entrée de jeu, je voudrais m'excuser du devoir vous imposer de temps en temps des effets d'une toux que m'a imposé l'hyperclimatisation de nos avions, mais je m'efforcerai de vous en faire subir les désagréments le moins possible. Alors, toute la matinée, nous avons assisté à de brillants exposés sur les sciences dans la démocratie, sur les ressources fossiles, les OGM, les cellules de souche, et de parler de la responsabilité des scientifiques dans la gestion de toutes ces connaissances. Mais il y a un point sur lequel tout ce qui ont discouru ce matin était d'accord, c'est qu'on est dans des démocraties stables, entre guillemets. Alors, moi, je voudrais faire partir ma question plutôt de là. Vu d'Afrique, comment se portent aujourd'hui les démocraties dans cette tourmente de la mondialisation? Et dans cette démocratie, quelles relations entretiennent la politique et la science? Dans le premier mouvement de mon exposé, je tenterai de montrer que les démocraties sont agitées de l'intérieur par des forces constitutives des sociétés, mais pas pour les mêmes raisons. Les raisons sont contextuelles. Dans un deuxième mouvement, je me focaliserai sur l'Afrique, mais en montrant que c'est une certaine représentation de l'État qui est la principale raison de la crise structurelle du processus de démocratisation qu'on observe sur ce continent. Dans un troisième mouvement, je procéderai à une phénoménologie de la façon dont les sciences du politique, là je ne vais pas dans les sciences de la nature, mais je suis là en sciences humaines, donc la manière dont les sciences du politique viennent au secours des crises sociopolitiques qui ponctuent l'évolution de la vie politique sur ce continent. Et enfin, je montrerai pourquoi, même aidés par les sciences du politique, ces processus de démocratisation restent toujours fragiles et laissent un sentiment d'éternel recommencement. Alors, les échelles de crise dans les démocraties. Les deux dernières décennies confirme la force structurante de l'idée de démocratie représentative, surtout hors des foyers européens et nord-américains qui l'ont vu émerger. La démocratie représentative dont il est question ici est abordée en tant que système politique idéal, garantissant la liberté individuelle et collective dans un ordre social et politique où les pouvoirs sont séparés et où la gestion des affaires publiques, des mécanismes de participation directe ou indirecte organise l'expression de la volonté générale. Même si certains courants, et je pense là à Amartya Sen, ou à Chakrabarti, ou encore un ouvrage traduit de Jacques Goudy en français, Le vol de l'histoire, donc même si certains courants intellectuels contestent à l'Occident la paternité du faisceau d'idées qui ont nourri l'invention de la démocratie, il n'en demeure pas moins vrai que c'est en Occident que les expériences de démocratie représentative les plus élaborées aient pu être observées. À tel point que les pays de l'Europe libérale, en raison du lien qu'ils ont pu établir dans l'histoire entre démocratie politique, développement économique et modernisation sociétale, tendent à exercer sur le reste du monde une force d'attraction. Ce sont également des pays qui tentent de s'offrir un modèle positif aux autres mondes culturels dans la définition de leur rapport à la chose politique. Cependant, l'universalisation de la démocratie représentative se grête beaucoup de paradoxes. En même temps que s'élargit son champ d'expérimentation, les expériences en cours laissent apparaître une cartographie de crise globale de la démocratie. Crise globale de la démocratie en tant que modèle de bifurcation et de fragilité plurielle, aussi bien dans les vieilles démocraties que dans les pays, surtout du Sud, récemment convertis à la démocratie représentative ou qui s'en réclament. En Europe, c'est désormais bien connu, la fragilisation de la démocratie est lue à travers ce que certains politologues, je vois là le professeur Pierre Ossanvallon, qualifient de crise de la représentation. Il s'agit d'une crise le plus souvent expliquée par le fait que les élections ne semblent plus conférer dans l'opinion une légitimité incontestable aux décisions des représentants. D'autres comme Hayat et Saint-Omer développent la même idée. Sans dénoncer la trop grande importance prise par l'expertise et la technoscience dans la vie politique, la subordination de l'exécutif au jeu d'intérêts entre la technostructure et les lobbies, mais également la montée en puissance et les interférences des forces du marché, des multinationales et des agences de notation. Il y a des voix plus autorisées que moi pour parler de cette dimension des choses, et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de mes propos ici, aujourd'hui. Mais si, en Europe, le processus de démocratisation de la démocratie, j'emprunte ce concept à Hayat et à Saint-Omer, produit une extraordinaire surchauffe politique, dont vu du sud en aval, il n'est pas toujours évident de percevoir le sens, et que ce sont les décisions des représentants sous la pression des lobbies qui sont source de suspicion et de tensions politiques, dans le monde arabe et en Afrique subsaharienne, c'est en amont, et j'insiste là-dessus, la question de la stabilité même des mécanismes de production des représentants qui pose problème. En Europe, le problème de la stabilité des institutions n'est plus un problème, mais en Afrique, c'est la question. Les crises qui agitent donc les démocraties en construction ne se situent donc pas au même niveau, ni à la même échelle. Dans le monde arabe, l'islamisme politique reste une menace interne, permanente, contrariant les fondations durables d'une démocratie représentative. En Afrique subsaharienne, les sources de fragilité sont évidemment moins polarisées, mais plutôt plurielles et tout aussi pernicieuses. La tension d'une démocratie de type représentatif y est également constamment fragilisée par des incertitudes dont le temps du rituel des élections en Afrique est révélateur. Les causes les plus évoquées pour expliquer la difficile consolidation de la démocratie dans cette partie du monde sont la pauvreté, le tribalisme, mais également l'absence de culture démocratique et de leadership politique. Mais à notre avis, ces facteurs paraissent plutôt secondaires par rapport à un autre plus occulte et non moins corrosif dans la construction de l'édifice démocratique. Il s'agit même de la représentation culturelle de l'État en Afrique, qui, moi, me semble-t-il, est au cœur des crises politiques. Depuis 1990, le continent africain est le champ d'une intense activité démocratique. En témoigne la fréquence des cycles électoraux auxquels n'échappe aucun des 54 pays, les passions politiques que suscite la démocratie, les vives tensions, voire les conflits meurtriers pré- et post-électoraux qui surviennent dans l'institutionnalisation de l'idée de démocratie. Dans cette partie du monde, tous les États, quelle que soit leur taille, se sont dotés d'une loi fondamentale en tant que référentiel des règles du jeu politique. Disposer d'une constitution y apparaît désormais comme un passage obligé de l'entrée dans la modernité politique. Dans aucun des États, l'on n'est indifférent à la force de la constitution. Mais en même temps, dans cette jeune démocratie, tout se passe comme si l'on prend conscience de cette force de la loi fondamentale, soit pour mieux la pervertir, en rationalisant les modalités de sa violation, soit dans le meilleur des cas pour y puiser les arguments contraignant les parties prenantes à respecter les règles du jeu politique, garantissant l'équité, la justice et la paix. Dans cette partie du monde, l'on se bat, l'on se tue et l'on meurt pour que l'alternance et le choix des représentants passent justement par les urnes. L'on se bat et l'on meurt pour voter ou pour avoir voté dans un sens. Nous en déduisons donc qu'en Afrique, l'adhésion au principe rationnel de la représentation semble acquise. Cependant, il existe par contre de sérieuses tensions sur l'institutionnalisation et la pérennisation des modalités de légitimation des représentants. En témoigne la systématicité des crises électorales, laquelle s'explique par la logique du soupçon qui gagne les oppositions à la veille des élections, ou la tendance des locataires du pouvoir à vouloir le conserver par la mobilisation de diverses sortes de stratagèmes. Toute chose qui dégrade le processus électoral et enlève toute crédibilité aux modalités et aux procédures de légitimation des représentants, en même temps qu'elle crée de la méfiance et de la défiance dans le corps social. Derrière donc les difficultés à institutionnaliser et à pérenniser les modalités et procédures de légitimation des représentants, se cache donc cette réalité anthropologique essentielle, mais très peu prise en compte dans l'analyse du processus d'internalisation de l'État et de la démocratie en Afrique. C'est ce dont je parlais tantôt, la représentation de l'État, qui, dans l'imaginaire social, structure la manière dont l'État a été approprié en Afrique, appropriation au sens de faire sien. L'État moderne, dont le processus de maturation s'enracine dans la période médiévale en Europe, s'est exporté vers l'Afrique par le truchement de la colonisation. Dans ce foyer de projection, la difficulté a historiquement été de faire se coïncider la lettre et l'esprit de l'État, en tant que modèle d'organisation politique, bien sûr. Dans le processus d'appropriation, l'État, en tant que lieu et institution, a conservé ses lettres de noblesse pour deux raisons. La première, il est admis comme signe de modernité légué par le colonisateur. La seconde, et là la plus importante, c'est qu'il est le lieu de concentration d'une part importante de la richesse collective, la fiscalité publique, et puis également d'autres pouvoirs, le pouvoir de contrainte par la force, le pouvoir de redistribution sociale par le contrôle que l'on peut exercer sur les structures de l'administration publique. En héritant donc de l'appareil d'État, les générations de gestionnaires de ces appareils en Afrique trouvent donc concentrées entre leurs mains la fabuleuse et pharaonique manne que constituent les instruments de puissance susmentionnés. Il est possible, rien qu'à travers le rapport des élites politiques, des citoyens ordinaires à l'État et à la chose publique, de procéder à une lecture anthropologique de la perception et de la conception de l'État. En Afrique, l'État fascine. Et la fascination qu'il exerce sur les imaginaires vient en partie de ce qu'il est vu et perçu comme étant la propriété de personne. De surcroît, cette chose n'appartient à personne en même temps qu'il est un lieu exceptionnel de concentration d'extraordinaires pouvoirs. Pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir politique, pouvoir social et même pouvoir symbolique. Il est aussi fascinant surtout à cause de l'élasticité des avantages qu'il leur donne et procure. Car là où il y a du pouvoir, il y a potentiellement bénéfice de la jouissance des attributs incorporés à ces pouvoirs. La quête de puissance et d'honneur étant universelle, elle peut être assouvie ici à bon compte par la conquête d'une portion du pouvoir d'État. D'où l'idée socialement partagée qu'un État, ça se vole et ça se mange. Cette représentation de l'État justifie en Afrique la culture de ce que Jean-François Bayard appelle la politique du ventre, puisque en Afrique, on dit que le mouton broute là où il est attaché. La jouissance donc procurée par le contrôle d'un espace de pouvoir est de ce fait d'autant plus séduisante qu'elle est illimitée dans des contextes socioculturels où les règles du jeu, c'est-à-dire les prérogatives d'un homme d'État, ses droits et ses obligations ne sont pas codifiés comme elles le sont, comme ils le sont dans les foyers historiques de production de l'État. On rajoute à cette séduction l'imposture de la réinterprétation culturelle de l'État-providence. Celle-ci a laissé prospérer l'idée que l'on ne profite de l'État que lorsqu'on a les siens dans les cercles du pouvoir. Cette philosophie du partage du bénéfice des ressources publiques justifie le marchandage communautariste du vote. Alors, la patrimonialisation de l'appareil d'État favorise de fait une redistribution informelle et parcimonieuse de ses services, soit par un jeu de détournement et réorientation de ses fonctions, soit par la redistribution en dose homéopathique des ressources financières dont il est doté. De cette anthropologie de la représentation de l'État découle également le fait qu'en période électorale, faire campagne en Afrique, ce n'est pas se vendre avec des idées, c'est plutôt savoir manipuler les identités primaires par un marketing politique très élaboré de la peur communautaire. Peur de perdre ou l'espoir de gagner les bénéfices que peuvent proférer la position souhaitée des proches. En Afrique, le droit régalien de jouissance du pouvoir, attaché à une telle représentation de l'État et de ses attributs, finit par prendre le pas sur les obligations vis-à-vis des sujets ou des électeurs. L'État et ses démembrements administratifs sont de ce fait patrimonialisés, voire privatisés. En clair, après les indépendances et après environ 30 années de parti unique, les cultures politiques semblent avoir intégré désormais que la légalité n'est garantie que par le passage par les urnes qui, seules selon la morale internationale, peuvent conférer la légitimité à tout prétendant à la gouvernance et à la représentation d'un peuple. Mais suivant la logique de patrimonialisation de l'État, sous-déterminant la démarche de conquête de l'État, la fraude électorale devient le moyen de simuler la légalité en évitant que l'urne ne devienne le moyen de l'inévitable sanction de la gestion patrimoniale du pouvoir notable d'un régime politique à un autre. Le processus de démocratisation en Afrique est de ce fait constamment menacé de perversions internes. En réaction, ces perversions rencontrent évidemment de formes diverses de résistance qui témoignent de la vitalité de l'activité politique sur ce continent. Mais cette vitalité également se nourrit des expériences historiques documentées par les sciences du politique, en même temps qu'elle enrichit les sciences politiques. Et là, j'en arrive à la phénoménologie des modalités d'interaction entre la science politique et les démocraties africaines. Évidemment, la science a pour vocation d'étudier les lois de la nature, mais aussi des sociétés. Parmi les sciences dites du politique, les sciences dites du politique ont pris le parti de se focaliser sur les idées et les pratiques politiques. Pour la science politique, les flux et les reflux constatés dans les dynamiques politiques en cours constituent donc une extraordinaire source d'enrichissement, puisqu'ils élargissent les champs d'observation, renouvellent et diversifient les objets d'études en raison des nouveaux objets, des nouveaux phénomènes politiques qui apparaissent, et de fait font émerger de nouveaux concepts ou font évoluer ceux qui existent déjà. Le désir de démocratie et les contradictions internes qui jalonnent son institutionnalisation rendent compte des modalités concrètes de réinvention continue des formes élémentaires de la vie politique, notamment la conscience politique et les mots d'expression, les formes d'organisation politique et la pensée politique sur ce continent. En guillemets, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce processus donc de réinvention de soi mobilise des acquis, mais des acquis historiquement et géographiquement lointains en termes d'expérience de démocratisation, consignés dans les annales de la science politique, en même temps qu'ils contribuent à les enrichir. Les exemples d'emprunt ou d'enrichissement des annales par les expériences d'efforts et de restauration de la consolidation sont de plusieurs ordres. Par exemple, le renouveau de la veille constitutionnelle. Les sciences je dirais constitutionnelles, tiennent une place fondamentale aujourd'hui dans la dynamique des de démocraties africaines. Alors, quand les situations politiques sont bloquées, il y a également des mécanismes qui sont mobilisés. Donc, lorsque l'état de droit, la survie de l'état de droit est compromise, en raison de, justement de cette tendance à la corruption devenue presque systématique, dans certaines sociétés, on a pu trouver des solutions, par exemple comme les conférences nationales, qui sont des formules culturellement réinventées des États généraux, ou encore, c'est par des coups d'État, c'est par la rébellion. Mais des rébellions qui sont accueillies dans une liesse populaire. Alors, cette dernière modalité remet du coup en perspective une double question, celle des tensions qui peuvent émerger entre légitimité et légalité, en situation de démocratie corrompue, d'une part, et puis celle du recours possible au droit à la révolte, introduit par Hobbes et par Kant, opposable à toute autorité, même légitime, qui n'assure pas la paix, c'est-à-dire qui n'assure pas à chacun sa sécurité et qui laisse à chacun la possibilité de jouir de ses biens. Il y a également les efforts de réinvention des cadres institutionnels en faveur d'élections plus transparentes. Comme je le rappelais, comme je le disais tout à l'heure, le temps des élections est suffisamment révélateur de la crise de confiance dans les institutions dont se dotent les systèmes politiques en Afrique. Mais comment rendre les élections plus libres, plus justes, plus transparentes, plus équitables sur des marchés politiques aussi imparfaits ? Pour recrédibiliser les résultats des suffrages exprimés et assurer l'intégrité électorale, dans la plupart de ces pays, depuis la deuxième vague des élections en 2000, on fait l'expérience d'associations de pratiques et d'institutions dédiées. Celles-ci, prises isolément, ne constituent pas une innovation institutionnelle en tant que telle, sauf dans la façon de les inculturer. L'innovation tient plutôt en amont dans la place que prennent ces institutions dans le maillage de la surveillance électorale et le rôle de validation en synergie du processus électoral, malgré l'existence en aval de recours institutionnels. Je pense là aux commissions électorales indépendantes qui sont certainement inspirées de l'expérience américaine de commissions électorales créées par le Congrès en vue de régler les disputes auxquelles ont donné lieu les élections présidentielles aux États-Unis en 1876. Il y a les missions d'observation internationale, l'informatisation des fichiers électoraux qui, de toutes les façons, ne changent rien à l'incertitude des résultats. Et puis, le mandat de certification initié par les Nations Unies et expérimenté, par exemple, en Côte d'Ivoire en 2010. Malgré tout cela, même quand la crise intervient, il y a également les ingénieries de sortie de crise qui sont également mobilisées. Toutes ces dispositions constitutionnelles et institutionnelles, lorsque survient la crise sociopolitique et qu'elle débouche sur un conflit armé plus ou moins meurtrier, comment organiser la sortie de crise ? Comment renouer avec la démocratie pluraliste et permettre aux bourrés, aux victimes, de continuer à vivre ensemble dans une même société ? La multiplicité des processus de sortie de crise à travers les formes variées de justice transitionnelle, dont les commissions Vérité et Réconciliation sont un instrument, le programme DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, des ex-combattants et des groupes d'autodéfense, les méthodes de rapprochement des protagonistes telles que le power sharing, les gouvernements d'union nationale, etc., sont implémentés également en Afrique et deviennent des laboratoires pour la recherche en sciences du politique. L'objectif de cette communication n'est pas de faire la critique de tous ces mécanismes originaux de relèvement, mais de souligner en quoi la vitalité politique sur ce continent interpelle les sciences humaines. Je ne terminerai pas cette partie sans souligner les modes de construction alternatifs d'espace public. Parce que, au-delà des questions des élections à laquelle la démocratie est souvent réduite, l'on assiste à d'autres formes de participation à la vie politique en Afrique. Pour contourner justement la confiscation des espaces plus conventionnels d'expression de liberté, la rue et les opportunités qu'offre l'accès numérique ont été vite investies. La prise de parole s'organise désormais à travers des lieux de débat spontanés et à ciel ouvert. On en observe au Kenya, en Côte d'Ivoire, même au Bénin, et par le digital via les réseaux sociaux et le téléphone cellulaire, Twitter, Facebook, et SMS et tout ce que vous imaginez. Mais tous ces instruments qui échappent justement au contrôle politique. Alors tout ça, ce sont de nouveaux champs qui s'ouvrent aux sciences politiques. Alors la dernière partie, pourquoi ? Les réformes constitutionnelles, souvent dictées par les tensions politiques et l'intensification des activités politiques, n'accouchent pas en Afrique d'une classe politique moins corrompue et d'un État moins voyou. En d'autres termes, pourquoi la politique en Afrique reste-t-elle un perpétuel recommencement ? Les ordres politiques en Afrique tentent de se réinventer en mobilisant les acquis de la science politique et de la technique, en même temps que les dynamiques politiques qu'ils dessinent enrichissent la science politique, je l'ai dit tantôt. Mais au-delà de cette phénoménologie de la dynamique démocratique, il est important de souligner que le mouvement démocratique actuel s'inscrit dans un champ assez artificiel, et pour le comprendre, il est souhaitable de pousser l'analyse au-delà des appareils organisés, des discours politiques et de l'image que les nouveaux acteurs politiques réussissent parfois très brillamment à donner d'eux-mêmes. Malgré les quelques avancées notées ça et là, l'on peut douter de la réalité d'un enracinement durable de la démocratie, véritablement libérale, en raison de deux choses. D'abord, de l'occultation du débat sur le lien entre culture et démocratie, et de l'indigence de la pensée politique. La question de l'occultation du lien entre culture et démocratie. En adoptant la démocratie libérale, l'Afrique subsaharienne donne l'impression d'être en rupture avec sa propre histoire politique. D'autant plus que les valeurs qui sous-tendent cette forme de démocratie ne font pas partie de sa conception, d'une certaine conception du monde partagée par la majorité des gens qui vivent sur ce continent. Et Kokri-Vidrovitch a fait de très très belles analyses sur cette question. Le processus de démocratisation y apparaît plutôt comme un transfert, comme le transfert de notre politique qui a sa source ailleurs. Tandis que certains intellectuels africains rejettent le modèle de démocratie qualifié d'occidental, sans en proposer un autre, d'autres se donnent bonne conscience en se réfugiant dans un discours confus sur la crise mondiale des démocraties, ce qui leur évite d'engager les vrais débats sur la difficulté de l'émergence d'une démocratie moderne en Afrique. Pour prendre le pouls des chances d'une réelle démocratisation sur ce continent, il nous semble indispensable d'investir le marché linguistique populaire en descendant dans le peuple pour objectiver ses propos les plus innocents sur la démocratie. Cheminement que nous propose d'ailleurs la psychanalyse. Supposer que ces paroles aient un sens est déjà une véritable révolution théorique pour comprendre la démocratie. Car ceci permet de prendre la mesure du tiraillement de l'inconscient populaire négro-africain entre la fascination qu'exerce la démocratie qualifiée de « natte des autres » et la crainte de ses effets sur les privilèges du moment. L'actualité du bras de fer entre l'Union africaine et la CPI et la perception en Afrique de la question de la poursuite en justice d'un chef d'État en exercice par la Cour est parfaitement illustrative de ce que nous disons. Tout le malaise de l'Afrique face à la démocratie réside justement dans ce dilemme. Les peuples sont-ils fondamentalement prêts à troquer le conformisme social ambiant contre la promotion d'une démocratie organisée autour de la liberté individuelle ? Il semble que la pensée n'ait jamais pris la place qui est la sienne sur de telles problématiques. Sur la question de l'indigence de la pensée politique, une véritable démocratie libérale peut-elle s'acclimater dans un environnement culturel où domine une représentation de l'État comme celle présentée dans la ligne précédente ? Il a également permis d'en douter. Nous le soulignons déjà dans un ouvrage publié en 1996 sur les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne francophone. À peine le mouvement démocratique enclenché en 1990, il est entré dans une phase de turbulence trop vite mise au compte de sa jeunesse. Cette hypothèse n'est pas à négliger, mais elle me paraît très partielle. La crise de la démocratisation apparaît plutôt à nos yeux comme étant les manifestations de la greffe difficile d'un emprunt culturel dans des contextes sociologiques mal préparés à son accueil. Les modèles de démocratisation en cours apparaissent plutôt comme une entreprise de modernisation politique, par la réappropriation d'une historicité sociopolitique exogène. La partialité de cette réappropriation s'explique par l'adoption des institutions démocratiques, à savoir l'État, les partis politiques, les parlements, les syndicats et le suffrage universel. Donc, amputé de l'esprit, justement, qui a façonné les consciences et à travers elles, l'habitus qui s'accorde avec le fonctionnement de ces institutions. Justement, cette désarticulation culturelle que cache mal l'hypertrophie du débat constitutionnel et les solutions cosmétiques, même inspirées par les sciences du politique, aux crises politiques, ne fait guère objet de débat ni n'appel de pensée politique alternative. Les démocraties africaines continuent de vivre de solutions politiques d'emprunt, la plupart du temps d'ailleurs suggérées plus ou moins discrètement par les agences multinationales, en l'occurrence les agences de coopération multilatérale, en l'occurrence le système des Nations Unies, ou les anciennes puissances coloniales restées tutrices de ces États. L'implémentation de ces solutions est presque toujours financée par les guichets des agences de coopération bilatérale ou multilatérale. Sous la pression de ressources financières et d'idées provenant d'ailleurs, de telles démocraties peuvent-elles avoir des fondations durables ? En conclusion, disons qu'en Afrique, l'idée de démocratie mobilise l'énergie sociale. Beaucoup moins que les idées, les pratiques et les modalités d'appropriation heureuse ou malheureuse des institutions démocratiques enrichissent, comme je l'ai dit, l'expérience universelle de démocratie. Cette dynamique politique alterne tantôt des signes d'avancée, tantôt des signes de régression politique, qui rendent compte d'une grande effervescence politique autour du projet d'institutionnalisation de l'idée de liberté et de l'état de droit. Cela suppose une adhésion implicite au principe du fonctionnement de la démocratie rêvée, du renouvellement de la légitimité des représentants par la voie des élections et de l'effort de démocratisation par les institutions. À travers cette dynamique de la vie politique, se donne également à lire la profondeur des paliers du travail politique des sociétés sur elles-mêmes. Ce travail politique consenti en faveur de la gestation de la modernité politique en Afrique semble peu pensé. La démocratie s'invente suivant une approche très urgentiste, sans la moindre objectivation du conflit structurel entre les valeurs et pratiques supposées associées au legs colonial qu'est l'État et l'essence culturelle du pouvoir, du rapport au pouvoir et du vécu du pouvoir dans des sociétés qui tentent, justement, d'institutionnaliser l'État moderne. L'idée étant de réussir à faire de l'État un lieu de régulation de la démocratie. Et finalement, le sentiment dominant est que l'expertise politique prend le pas sur la pensée politique interne, laissant du coup le champ libre aux idées qui viennent en urgence d'ailleurs. Dans l'Afrique politique, tout bouge, mais les changements observés semblent ne pas être à la mesure des attentes. Je vous remercie.